Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Au téléphone avec nous et comme toutes les semaines, Françoise Verna, rédactrice en chef de La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie. Et comme toutes les semaines, on va évoquer avec elle les titres à la une de La Marseillaise à paraître ce vendredi. Bonjour Françoise.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Et on commence cette une de La Marseillaise avec le dossier spécial 1er mai qui s'annonce historique avec une intersyndicale unie qui exige le retrait de la réforme des retraites.
Oui, tout à fait. Le dossier retraite est loin d'être clos.
Ouais.
Et le 1er mai, ça sera lundi prochain, il s'annonce en effet historique puisqu'on a une intersyndicale qui est déterminée à en faire un grand moment d'expression du monde du travail,
oui,
contre la réforme Macron des retraites, du recul de l'âge légal de départ à 64 ans.
Mmh.
Donc on consacre notre dossier à cette question importante et notamment on donne la parole à tous les représentants de l'intersyndicale. Ils sont 9 dans l'Hérault puisque à côté des huit syndicats de salariés,
oui,
il y a aussi le syndicat de combat universitaire de Montpellier avec les étudiants.
À lire aussi dans La Marseillaise le dispositif contre les incendies présenté à Nîmes où siège la sécurité civile.
Oui, tout à fait. Alors, c'est le siège de la sécurité civile, donc c'est Nîmes. Et donc, mardi, il y a eu la présentation d'un dispositif renforcé,
mmh,
puisque les moyens cette année sont encore augmentés,
oui,
pour faire face à une des conséquences du réchauffement climatique, à savoir les feux de forêt.
Et oui.
Donc, on a énormément d'habitants qui sont exposés au risque incendie. Et ce n'est plus simplement nos départements le sud de la France qui est donc fragile par rapport à ce risque, mais mmh, l'ensemble des départements à cause du réchauffement climatique et de la sécheresse.
Direction l'Odève à présent avec la CGT qui ouvre, tiens, un bureau d'embauche pour l'hôpital. Ça voudrait dire que Pôle emploi ne fonctionne plus.
En fait, il nous explique bien l'union locale CGT de l'Odève,
qui, oui,
sont pas là du tout pour se substituer à Pôle emploi,
mmh,
mais ils veulent répondre à la crise de l'hôpital public, en l'occurrence qui touche aussi l'hôpital de l'Odève. Et donc la CGT a une grande tradition de bureaux d'embauche,
oui,
ça a toujours été mis en place. Et là, il y en a un spécifiquement qui a été ouvert donc par l'ULCGT de l'Odève,
mmh,
pour permettre à des personnes, à des soignants ou à du personnel hospitalier de déposer leur CV,
mmh,
CV qui sont ensuite transmis directement à la direction de l'hôpital, un hôpital où il y a énormément de besoins.
Mmh, une belle initiative. Côté culture, un autre dossier à lire dans La Marseillaise,
oui,
un dossier spécial comédie du livre.
Oui, nous consacrons une double page à la comédie du livre. Alors c'est un événement qui va être de retour à partir du 5 mai jusqu'au 14 mai.
Oui.
Depuis la précédente édition, cet événement se déroule sur 10 journées.
Oui.
On a à peu près, ça donne le vertige, il y a quelques 200 auteurs et dessinateurs qui sont invités. Et donc il y a plusieurs dizaines de milliers de visiteurs qui sont attendus.
Mmh.
Et il y a notamment aussi tout un volet de la comédie du livre qui est consacré aux libraires, bien sûr,
oui,
aux auteurs et aux jeunes lecteurs aussi.
En tout cas, un des plus gros événements culturels à Montpellier. Allez, à la une de La Marseillaise, vous avez les titres et on en parle tout de suite avec Françoise Verna.
Politique, sociale, société, économie, France et internationale, environnement, sport, culture et loisirs, La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Et on commence donc, Françoise, cette une de La Marseillaise avec le dossier spécial à lire ce vendredi qui va concerner la manifestation du 1er mai qui s'annonce historique.
Oui, alors c'est une manifestation du 1er mai qui cette année va avoir évidemment une dimension très 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 particulière puisqu'elle se déroule en pleine bataille des retraites,
eh oui,
malgré la promulgation de du texte du recul de l'âge légal de départ à 64 ans, l'intersyndicale reste mobilisée, le monde du travail reste mobilisé. On le voit depuis la promulgation et la prise de parole d'Emmanuel Macron, que pas ni lui ni ses ministres lors de déplacements ne sont laissés tranquilles par le monde du travail, qui manifestent, qui tapent sur des casseroles, en dépit des différentes interdictions. Et donc, notre grand dossier, c'est le 1er mai, comment il se prépare. Et on donne évidemment la parole, notamment aux représentants de cette intersyndicale qui se décline dans chaque département. Donc, on donne la parole à l'intersyndicale de l'Hérault et à des membres de l'intersyndicale aussi du Gard. Et donc, c'est huit syndicats. Et il y a aussi dans l'Hérault le syndicat de combat universitaire de Montpellier. Il faut savoir que le campus Paul-Valéry est toujours bloqué. Donc, il y a toujours une forte mobilisation pour exiger le retrait de cette loi qui n'a pas été votée, qui a été adoptée sans vote par le 49-3 et qui n'est absolument pas acceptée par le monde du travail. Alors, il faut savoir que dans l'Hérault, il va y avoir pas moins de 8 manifestations. On donne tout le détail, ça va de Montpellier en passant par Ganges, justement, là où s'est rendu le président de la République, Lunel, Agde, de Sète, Béziers, Lodève, Bédarieux. Et nous avons aussi interrogé une maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université de Montpellier. C'est Emmanuelle Wangat qui nous explique, notamment dans cet entretien, que les syndicats ont repris du poil de la bête avec cette grande mobilisation et que en fait, on avait un président qui a voulu les écarter depuis, y compris son premier quinquennat, et sur la réforme des retraites, il a refusé de les recevoir. Et là, elle nous explique donc, cette universitaire, que ces syndicats ont fait la démonstration qu'ils ont été capables, ils sont capables de faire un mouvement qui est fort, notamment par son ampleur, et aussi sa durée. Et donc, elle nous dit qu'ils ont réussi, ces syndicats, à retourner la communication du gouvernement, parce que le gouvernement dit, les présentait toujours, les représentants des salariés et des travailleurs, comme des personnes, des représentants déraisonnables ou radicalisés. Et là, en fait, ce que nous explique cet universitaire, c'est que les syndicats ont gagné la bataille de la communication en affirmant qu'ils étaient prêts à négocier avec aussi leurs propositions avancées. Et c'est eux qui ont donné à voir un gouvernement non seulement rigide, mais aussi radicalisé. Et c'est un beau retour du stigmate, nous dit-elle. Donc, il y a aussi, évidemment, un des enseignements, c'est la diversité aussi des personnes qui composent le mouvement social. Elle remonte, bien évidemment, déjà aux contestations, que ce soit les Gilets jaunes, qui est un mouvement en nombre beaucoup plus petit, mais qui a beaucoup marqué. Et puis, il y a eu les mobilisations, on l'oublie, mais il y a eu la mobilisation contre la loi travail. Et donc, il y a différents profils maintenant qui vont dans les manifestations. Et là, on a une confiance avec cet intersyndical, même s'il y a une méconnaissance encore, nous dit-elle, de l'histoire syndicale ou des mouvements sociaux. Ce mouvement-là, actuellement, là, en 2023, en ce début d'année 2023, qui dure depuis maintenant plus de 4 mois, ça montre cette capacité de mobilisation, ça marque les esprits, et donc il y a une grande difficulté pour le pouvoir en place qui veut tourner la page, le mouvement social, lui, ne veut pas tourner la page, et on explique ça dans ce dossier.
Et puis je crois qu'ils ont vraiment retourné le discours du gouvernement, puisqu'il y a eu beaucoup d'adhésions, alors que les syndicats étaient un petit peu boudés par les travailleurs ces dernières années, il y a eu beaucoup d'adhésions ces derniers temps.
Oui, il y a un regain d'adhésion grâce à ce mouvement social, puisque évidemment les personnes qui adhèrent et les syndicats, ils font le lien, mais entre la question des retraites et celui du travail. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est le travail aujourd'hui, la qualité du travail, sa rémunération, et dans un contexte de forte inflation qui touche en premier lieu ceux qui ont les plus faibles revenus, mm-hmm. avec une explosion des prix, notamment de l'alimentation. Et on sait très bien que c'est les plus petits salaires ou les salaires très moyens qui consacrent le plus d'argent à l'alimentation, qui sont donc le plus pénalisés et par-dessus le marché. Donc ils se prennent deux ans ferme de plus de travail, alors qu'ils ont été en première ligne, deuxième ligne pendant la crise sanitaire.
À lire aussi dans la Marseillaise, le dispositif contre les incendies présenté à Nîmes, où est le siège de la sécurité civile.
Oui, donc ça s'est passé, on donne le détail vraiment de ce nouveau dispositif de lutte contre les incendies. Mmh. Ça a été présenté mardi 25 avril sur la base de la sécurité civile, donc la Marseillaise y était. Alors il faut savoir que c'est une base nationale, hein, donc évidemment, ce n'est pas pour rien qu'elle est dans le sud de la France et dans un département comme le Gard, à côté de l'Hérault. Ce sont des départements qui sont quand même très 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 sujets et ils sont fragiles par rapport au risque incendie.
Oui, et de plus en plus tôt en plus.
Exactement, puisque premiers grands feux, c'était dans les Pyrénées-Orientales la semaine dernière, avec près de 1000 hectares qui sont partis à fumer, dans un département fortement marqué par une carence, une pénurie en eau.
Oui.
Et notre territoire métropolitain, hein, on parle de la France métropolitaine, il y a à peu près 15 millions d'hectares de forêt. Et donc, on est le troisième parmi les pays d'Europe les plus boisés.
D'accord.
Donc, évidemment, c'est à la fois une richesse, mais c'est aussi une grande vulnérabilité, puisque avec le dérèglement climatique, hein, le réchauffement climatique, aujourd'hui, la quasi-totalité des départements est concernée par le risque de feux de forêt.
Oui.
Donc, on est allé à la rencontre du chef de l'état-major de la sécurité civile, qui est à Nîmes, François Pradon, qui rappelle quand même que 8 feux sur 10 sont de cause humaine. Mmh. Et par exemple, 90% des feux qui partent des autoroutes sont liés à
un mégot
de cigarette. Voilà, oui. Exactement. Donc, il n'y a pas de fatalité, il y a aussi un message de prévention. Mais il y a aussi des moyens à mettre en œuvre. On a une flotte de Canadair,
oui.
De Dash ou de les Beechcraft aussi, qui doivent être renouvelés petit à petit. Aujourd'hui, il y en a 12 de Canadair, il y a 7 Dash, 3 Beechcraft, ces moyens aériens, ils ont un seul et même objectif, c'est que nous expliquons, c'est éviter l'éclosion d'un feu.
Oui.
Alors, cette année, pour 2023, il va y avoir donc une amélioration de ces moyens matériels. Mmh. Il va y avoir 9 avions et hélicoptères supplémentaires.
Oui.
Il va y aussi y avoir un renforcement des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires et de sapeurs-pompiers professionnels.
Mmh.
On rappelle aussi, donc c'est à peu près 500 pompiers supplémentaires. Il faut savoir qu'en France, il y a 41 800 sapeurs-pompiers professionnels,
oui.
mais il y a 197 800, presque 200 000 sapeurs-pompiers volontaires.
D'accord.
Donc ça, c'est une spécificité aussi. Donc sur la période estivale, il y a donc une préparation des moyens, avec évidemment, malheureusement, des feux qui peuvent démarrer très tôt du fait aussi de la sécheresse.
Oui.
Et donc, on dresse aussi un petit peu le bilan de ce qui s'est fait l'année dernière. Et surtout, on rappelle que par rapport aux années précédentes, il y a eu énormément de feux, énormément d'hectares qui sont partis en fumée.
Mmh.
C'est quelque chose qui malheureusement s'installe. Et ça, c'est une partie du travail, la sécurité civile, mais il y a tout le travail en amont pour éviter que le réchauffement climatique ne s'aggrave.
Oui, et puis on parlait des mégots de cigarettes, mais on pourrait évoquer aussi, pour pallier à ces feux, le débroussaillage. Et puis quand on fait un barbecue, ne pas le faire quand il y a trop de vent, par exemple.
Oui, oui, disons qu'il y a, aussi des mesures de prévention, des messages de prévention à faire passer. C'est des choses qui ont été faites de façon systématique dans les régions du Sud, mais qui doivent désormais être généralisées. Et donc, c'est aussi l'exemple de la sécurité civile qui, au-delà des moyens à mettre en place pour qu'un feu démarre, il faut éviter qu'un feu soit déjà puisse naître.
Et oui, absolument. Allez, direction l'Odève, où la CGT ouvre un bureau d'embauche pour l'hôpital pour répondre à la crise de l'hôpital public.
Oui, alors là, c'est une... nous avons Thierry Bousquel. Alors Thierry Bousquel, c'est le secrétaire de l'Union locale CGT de l'Odève.
Oui.
Et il nous explique donc, il y a une véritable urgence à recruter des soignants et c'est pour ça que le syndicat CGT à l'Odève a décidé de mettre en place des bureaux d'embauche. Donc, c'est-à-dire que très concrètement, le syndicat tient des bureaux d'embauche sur la place du marché, par exemple.
Ouais.
Ça s'est passé le samedi 15 avril. Et là, ils ont recueilli, en étant simplement une bonne matinée sur la place du marché de l'Odève, trois CV. Alors parmi eux, il y a un aide-soignant, un préparateur en pharmacie. Et donc ces demandes d'emploi, elles ont été transmises le 24 avril au directeur de l'hôpital de l'Odève, qui nous explique Thierry Bousquel, a promis de recevoir ces candidats et nous dit qu'eux, ils ne lâcheront pas le morceau. Et pourquoi ne lâcheront-ils pas le morceau? C'est que il y a pas moins de 22 emplois à pourvoir au centre hospitalier de l'Odève. Parmi ces emplois, il y a 3 médecins, un coordonnateur, il y a 7 infirmiers qui manquent à l'appel, des aides-soignants, des manipulateurs radio, enfin bref, toutes ces professions qui sont extrêmement, qui font qu'un hôpital peut tourner normalement.
Oui.
Il y a ces bureaux d'embauche qui sont ouverts sur la place publique, on va dire. Et puis, il y a aussi une incitation de la part de la CGT à déposer directement les CV dans les boîtes aux lettres de l'Union locale ou dans la boîte aux lettres du syndicat à l'hôpital. Thierry Bousquet nous explique qu'eux se chargeront de transmettre. Il y a aussi un grand combat que mène l'Union locale CGT de l'Odèle, c'est de maintenir le centre d'accueil pour la permanence des soins. Alors, c'est un peu rébarbatif comme terme, mais les CAPS, en fait, ça fait office d'urgence.
D'accord.
Et celui de l'Odève est menacé. Ce que nous explique ce syndicaliste, c'est que les médecins libéraux sont partis et l'Agence régionale de santé refuse de financer des recrutements de médecins salariés. C'est une enveloppe d'à peu près 300 000 euros. Donc ça, c'est grave parce qu'il y a l'exemple de Lunel, où on a commencé à fermer à réduire les horaires d'ouverture du centre d'accueil pour la permanence des soins. Donc à Lunel, c'était fermé de 2h à 6h du matin. Et donc, résultat des courses, c'est qu'il a fini par fermer définitivement. Donc ça, c'est un des grands combats aussi de l'Union locale de la CGT de l'Odève, c'est de maintenir ce centre d'accueil pour la permanence des soins ouvert. Alors, c'est à rapprocher des déclarations qu'a faites ce mercredi la Première ministre, qui insiste beaucoup et qui répète que tout le monde aura un médecin, tous les gens qui n'ont pas de médecin auront un médecin, et la réalité de terrain qui est décrite et vécue par les soignants ou par le personnel hospitalier dans les territoires.
Heureusement, en tout cas, qu'il y a les syndicats, encore une fois.
Complètement.
Allez, côté culture, et pour finir, un dossier spécial Comédie du Livre qui sera de retour sur Montpellier du 5 au 14 mai prochain.
Oui, alors la Comédie du Livre, c'est un des vraiment grand événement culturel, littéraire, qui se déroule donc à Montpellier sur 10 jours. Donc c'est vraiment un moment où on va pouvoir aller à la rencontre des libraires, des auteurs. On va pouvoir aussi se plonger dans des formes artistiques à partir de la littérature. Ça commence donc le 5 mai jusqu'au 14. On a un spécial jeunesse qui sera accueilli le 6 et 7 mai au domaine d'eau.
Oui.
Donc ça, c'est très important parce que en fait, il y a un rapport assez récent du Centre National du Livre, le CNL, qui pointe un décrochage de la lecture. Ce décrochage va s'accentuer sur une tranche d'âge de 15 à 25 ans.
D'accord.
Donc, évidemment, ce genre de grande manifestation permet de rendre encore plus accessible les livres. Et pendant ces 2 journées, c'est une comédie à hauteur d'enfants et d'adolescents, ils vont découvrir des spectacles littéraires, musicaux. Donc c'est aussi un moyen d'arriver à la lecture. C'est pas des moyens détournés, mais un peu différents, qui vont permettre de se réconcilier avec la littérature, qui est quand même une fenêtre sur la sur la liberté, sur l'imagination. Et donc on a par exemple une association qui s'appelle le Miroir du Crime, qui va proposer un événement autour de l'univers d'Alric et Jennifer Twice, qui sont des auteurs montpelliérains de fantasy et qui sont assez appréciés par le jeune public. Il y a aussi une dimension européenne, puisqu'on n'oublie pas que Montpellier, Montpellier, sa métropole, et des villes comme Sète sont engagées au titre de capitale européenne de la culture, pour décrocher ce label, qui est un label très très convoité par les villes, par les collectivités. Et donc il y aura vraiment cette année un accent qui est mis sur la littérature européenne, puisqu'il y aura il y a un très populaire salon des libraires et des éditeurs qui lui va se tenir entre le 12 et le 14 mai. Alors grand changement par rapport aux années précédentes, ce n'est plus l'esplanade puisqu'il y a des travaux, mais c'est la promenade royale du Pérou qui va accueillir donc ce salon des libraires et des éditeurs.
D'accord.
Donc avec beaucoup d'invités qui viennent notamment de Macédoine du Nord, de Norvège, de Suisse, d'Espagne, de Suède, de Grèce et des Pays-Bas. Il y a notamment un débat, on donne tous les détails, sur la grande question, est-ce qu'il existe une littérature européenne ?
Oui.
Donc on a des événements comme ça. On a aussi une carte blanche qui est donnée à un grand historien, professeur au Collège de France, c'est Patrick Boucheron.
Oui.
Donc c'est vraiment, nous on a, la Marseillaise, on invite vraiment à découvrir cet historien qui a parmi les meilleurs historiens du moment. Et donc la Comédie du Livre lui a confié une carte blanche pour cette 38e édition.
Oui.
Donc il a invité aussi des personnes parmi les auteurs. On peut citer Marie-Hélène Lafont, Laurent Demanze, enfin toute une kyrielle de plumes qui vont venir aussi débattre et rencontrer les lecteurs et le public avec un certain nombre de grands rendez-vous.
Oui.
Donc moi je n'ai qu'une chose à dire, c'est se précipiter sur la Marseillaise. On a une double page consacrée à cette comédie du livre avec le programme, les temps forts, une interview aussi du responsable de la comédie du livre, justement qui nous parle du rapport à la lecture, notamment chez les jeunes. Donc et il y a 10 jours pour découvrir tout ça. C'est toute génération et c'est formidable.
Et puis une belle façon aussi de réconcilier les jeunes avec la lecture, c'est d'écouter la radio, puisque j'en profite pour dire que nos amis de Radio Campus seront partenaires de la Comédie du Livre comme ils le sont de façon historique. Et vous pourrez écouter à la radio ou même voir sur place des plateaux radio qui recevront tous les auteurs qui
viendront
sur cette Comédie du Livre.
Bien sûr, oui, tout à fait. Souvent, en écoutant la radio, on a aussi on découvre des auteurs, on a des idées de lecture, et ça, C'est un outil formidable, la radio, pour parler de littérature, tout à fait.
Ah ben là, vous prêchez un convaincu, Françoise.
Oui.
Eh ben voilà, tout est dit.
Oui, voilà, donc on a un beau numéro à paraître donc le 28, avec évidemment du muguet à la lune, c'est le 1er mai. Voilà.
Et on espère que les gens se rendront nombreux aux manifestations. Merci beaucoup,
oui,
Françoise.
Ça s'annonce important, oui, oui.
Oui.
Merci beaucoup, Bruno. À très bientôt.
À la semaine prochaine.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Vernat. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.